Radio Stable.
Morning Edition from NPR.
El
News.
Radio
que se reproduce aquí en la radio.
France Inter, le 18-20.
Un jour dans le monde, c'est maintenant l'escale reportage, la lutte contre le paludisme au Bénin, avec la correspondante de RFI, Delphine Bousquet. Sous les radars de l'actualité, Virginie Pironon, la contestation en Arménie, un scandale au Royaume-Uni et un festival en Colombie. Le cinéma dans le monde, comme chaque mercredi, Eva Bétan et un film israélien, Foxtrot de Samuel Maoz, qui a provoqué la colère du gouvernement israélien parce que ce film met en cause l'armée, sujet ultra sensible en Israël. 18h55, l'édito diplo avec Anthony Bélanger. Israël encore, avec l'annulation d'un plan controversé d'expulsion de migrants africains. Mais tout de suite, le sommet intercoréen, après-demain.
Pierre Veil. Un jour dans le monde.
Oui, après-demain, le leader nord-coréen Kim Jong-un fera un geste historique en se rendant pour la première fois au sud pour un sommet avec le président sud-coréen Moon Jae-in. Objectif, concrétiser les espoirs de paix entre les deux voisins suite au rapprochement diplomatique du début de l'année et ouvrir la voie à un sommet encore plus attendu, peut-être début juin, entre l'énigmatique Monsieur Kim, ses tenues Mao, son crâne rasé au-dessus des oreilles, et Donald Trump. C'est pas la première fois que des dirigeants nord-coréens et sud-coréens se rencontrent, mais lors des fois précédentes, en 2000 et 2007, c'était à Pyongyang, au nord. Antoine Bondaz, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique et enseignant à Sciences Po Paris, spécialiste de la péninsule coréenne. D'abord, un mot, décrivez-nous le lieu de cette rencontre après-demain. Panmunjom, c'est le village de la trêve et ça se trouve dans la zone démilitarisée qui divise la péninsule.
Alors exactement, la péninsule est donc divisée le long du 38e parallèle par cette fameuse zone démilitarisée de 4 km de large tout le long donc de la frontière entre les deux pays. Ce qui est très important, c'est que Panmunjom est le lieu, alors c'est un peu plus au nord en réalité, où a été signé l'armistice de 1953, mettant fin aux hostilités mais ne mettant pas fin à la guerre de Corée. Et la zone, précisément, est ce qu'on appelle la Joint Security Area, très connue par ces fameuses petites baraques bleues qui se trouvent sur la frontière. Le sommet aura lieu côté sud-coréen, vous l'avez dit. C'est la première fois qu'un dirigeant nord-coréen se rend au sud depuis la proclamation des deux républiques au nord et au sud en 1948. Et elle aura lieu dans la Maison de la Paix, une maison, en réalité un bâtiment, construit par la Corée du Sud il y a quelques années.
Alors de quoi vont-ils parler? Que vont-ils négocier? Kim Jong-un, la Corée du Nord, et Moon Jae-in, la Corée du Sud.
L'objectif, ça va être de mettre le plus de dossiers possibles dans cette déclaration conjointe qui sera annoncée donc vendredi soir suite au sommet. Les thèmes abordés seront premièrement la question d'un régime de paix. Pas forcément d'un traité de paix, sur le plan juridique c'est un peu compliqué, puisque la Corée du Sud n'est pas signataire de l'armistice de Panmunjom de 1953, mais en tout cas un régime de paix, c'est-à-dire une situation de facto de paix entre les deux Corées. Mais il y a de nombreux autres thèmes qui seront abordés. La question d'un mécanisme de gestion de crise dans la péninsule en cas d'incident militaire.
Là, il y a un téléphone rouge qui existe désormais entre les deux responsables
entre les
de Corée.
Deux dirigeants, exactement.
Ils peuvent se téléphoner immédiatement.
Ils peuvent, s'appeler directement. C'est très très important, notamment du point de vue nord-coréen, puisqu'on a accès directement aux dirigeants nord-coréens. Parmi les autres dossiers, il y aura la question de l'aide humanitaire. Dans cette aide humanitaire, financière, qui passe généralement par les organisations internationales. On peut également ajouter la question des familles séparées, par la guerre de Corée entre 1950 et 1953. Et puis d'autres thèmes, notamment ce qu'on appelle la mer de l'Ouest, la mer jaune entre la Corée et la Chine, puisque la plupart des incidents intercoréens, notamment ceux qui ont fait des morts ces 30 dernières années, ont eu lieu dans cette zone géographique. Encore une fois, le plus important, c'est de tout mettre sur la table et de négocier progressivement dans les années qui vont venir.
Alors Antoine Bondaz, est-ce que le président sud-coréen a aussi pour mission de préparer l'éventuelle rencontre historique entre Donald Trump et Kim Jong-un?
Alors effectivement, ça a été l'objectif de la diplomatie sud-coréenne déjà depuis plusieurs mois. Faciliter une rencontre entre les États-Unis et la Corée du Nord et surtout créer une atmosphère positive à travers notamment des engagements nord-coréens.
Alors les engagements sur le nucléaire.
Sur le nucléaire. Alors, la Corée du Nord ne va pas prendre les engagements principaux vis-à-vis de la Corée du Sud. Elle les prendra directement vis-à-vis des États-Unis. Mais l'objectif, c'est de présenter la Corée du Nord comme une nation avec qui on peut discuter, avec qui on peut négocier et faciliter, encore une fois, le sommet entre Kim Jong-un et Donald Trump qui aura lieu très certainement début juin.
Alors ce mois-ci, Kim Jong-un a annoncé la fin de ses essais nucléaires et des tirs de missiles balistiques à longue portée. Est-ce que ce n'est pas une annonce pleine d'ambiguïté? Parce que Kim Jong-un, il dit « j'arrête », il ne dit pas « j'abandonne », il ne dit pas « on va démanteler tout l'arsenal atomique nord-coréen ».
Effectivement, dès novembre 2017, date du dernier essai balistique, un missile intercontinental qui pour la première fois pourrait frapper théoriquement l'ensemble du territoire américain, la Corée du Nord avait annoncé qu'elle avait complété ses forces nucléaires. Ce qu'a annoncé Kim Jong-un il y a quelques jours, c'est tout simplement « nous avons complété les forces nucléaires, nous allons désormais nous concentrer sur l'économie, puisque politiquement et techniquement, nous n'avons plus de raison de tester ».
Voilà. Alors, on a le sentiment que la Corée du Nord, elle dit, on a désormais, comme vous le dites, l'arme nucléaire, on n'a pas le système le plus sophistiqué, mais enfin, on peut faire très mal. Et ok, on s'en tire là. Et Donald Trump, je l'écoute très souvent, il dit, je veux que vous désarmiez complètement, plus aucune arme nucléaire chez vous en Corée du Nord. Donc, la discussion, si elle a lieu entre Donald Trump et Kim Jong-un risque de bloquer très rapidement.
Alors, à court terme, ça ne devrait pas bloquer. À court terme, Donald Trump peut sortir d'un sommet en se présentant comme un président victorieux s'il obtient un gel, encore une fois, écrit de ses essais nucléaires et balistiques, s'il obtient des inspecteurs internationaux sur le site d'essais nucléaires, s'il obtient la libération des trois prisonniers américains qui sont encore à Pyongyang, et si, surtout, la Corée du Nord, par écrit, s'engage à long terme, encore une fois, à se dénucléariser, c'est-à-dire si on entre dans un processus de négociation. Mais côté nord-coréen, il ne faut pas se voiler la face. L'objectif n'est pas de se dénucléariser. L'objectif, il est d'éviter un renforcement de la pression américaine. S'il n'y a pas d'essai, ce sera très difficile pour le Conseil de sécurité de voter de nouvelles sanctions. La Chine et la Russie, très certainement, les bloqueront. D'autant plus que s'il n'y a pas de provocation dans la péninsule, l'attention potentiellement se portera sur le Moyen-Orient, sur l'Iran et plus sur la péninsule coréenne.
Les fausses promesses, est-ce une spécialité nord-coréenne ?
Alors c'est une spécialité, même une excellente réputation pour la Corée du Nord, puisque les accords de 94 avec les États-Unis, l'accord de 2005 dans le cadre des pourparlers à 6, plateforme de négociation multilatérale régionale avec les grands pays qui étaient la Chine, les États-Unis, la Russie, le Japon, mais également les engagements plus récents, comme en 2012, encore une fois avec le président américain, n'ont jamais été tenus par la Corée du Nord. Ce qui est important, encore une fois, pour la Corée du Nord, c'est de conserver ses armes tout en évitant un accroissement de la pression sur le régime.
La Corée du Nord dit, à propos de l'armement nucléaire, c'est l'épée chérie. Pourquoi cette expression ?
Alors, il y a plusieurs éléments qui sont fondamentaux. C'est l'assurance vie, donc ça c'est la dimension militaire classique. Même si la Corée du Nord a une capacité de dissuasion vis-à-vis des États-Unis et de la Corée du Sud depuis des années. Séoul, mégalopole de plus de 20 millions d'habitants, est otage en réalité des capacités conventionnelles de la Corée du Nord. Mais ce qui est fondamental, c'est que le programme nucléaire et balistique ont été utilisés à des fins politique par Kim Jong-un comme un outil pour assurer sa légitimité. Kim Jong-un est arrivé au pouvoir en étant un jeune dirigeant. Il a été présenté à la population quelques mois avant de succéder à son père. L'arme nucléaire, le vecteur balistique, ont été utilisés comme un élément pour asseoir son autorité, asseoir sa légitimité et encore une fois garantir la survie du régime, puisque ça c'est la priorité des priorités du régime nord-coréen.
Kim Jong-un, selon vous, Antoine Bondaz, est-ce qu'il fait des gestes d'apaisement actuellement parce que son pays est à genoux économiquement à cause des sanctions économiques qui visent la Corée du Nord ?
Les sanctions ont évidemment un impact fort sur l'économie nord-coréenne. Nous ne disposons pas encore malheureusement de statistiques permettant de le démontrer, mais je pense que ce n'est pas la seule raison. Politiquement, encore une fois, Kim Jong-un, en annonçant qu'il avait complété les forces nucléaires, n'a plus de raison politique de tester. C'est-à-dire qu'en testant de nouveaux missiles à portée intercontinentale ou en testant des armes nucléaires, il n'a rien à gagner politiquement puisque les armes nucléaires étant officiellement complétées. Par contre, il a tout à perdre puisqu'il y aura de nouvelles sanctions internationales. Et donc Kim Jong-un, logiquement désormais, annonce un gel, annonce qu'il va se concentrer sur l'économie, puisque le développement de l'économie, c'est une autre source de légitimité. Je rappellerai juste que dès 2013, la Corée du Nord avait présenté sa stratégie nationale, la ligne Pyongjin, qui reposait sur le développement simultané des capacités nucléaires et des capacités économiques. Il a rempli la première mission et il se consacre désormais à la seconde.
Que sait-on actuellement de la situation économique en Corée du Nord ?
On a peu d'informations, quelques informations sur les prix, par exemple les prix de l'essence, les prix des matières premières, notamment les céréales, etc. Il n'y a pas de flambée des prix, et donc c'est ce qui laisse penser qu'en réalité les impacts des sanctions demeurent encore limités. Ce qui est sûr par contre, c'est que les sanctions ont un impact fort sur l'accumulation de devises étrangères par le régime, puisqu'il ne peut quasiment plus rien exporter, plus de 90% de ses sources d'exportation ont été asséchées, et surtout les travailleurs nord-coréens à l'étranger sont de moins en moins nombreux.
Alors pour les transformations économiques en Corée du Nord, est-ce qu'on peut imaginer que Kim Jong-un pourrait choisir de tout changer, d'aller vers une économie à la chinoise, c'est-à-dire une alliance de communisme implacable et d'une forme de libéralisme économique autorisant l'initiative privée ?
Alors la Corée du Nord officiellement s'est libéralisée très partiellement depuis l'arrivée au pouvoir de Kim Jong-un. En 2013 et 2014 par exemple, le jeune dirigeant ouvrait des zones économiques spéciales sur le mode chinois des années 80. Par contre, il y a deux problèmes principaux en Corée du Nord. Premièrement, les sanctions internationales qui limitent l'éventail des possibilités en termes de développement. Et deuxièmement, la nature même du régime. L'objectif pour Kim Jong-un, c'est d'éviter à tout prix qu'il y ait la constitution d'une classe moyenne qui pourrait en réalité entrer en confrontation avec les intérêts du régime. Et c'est ces deux éléments principaux, les sanctions et la nature du régime, qui aujourd'hui limitent considérablement le potentiel de développement de la Corée du Nord.
Antoine Bondas, que sait-on du fonctionnement actuel de cette dictature en Corée du Nord ? Parce qu'il ne faut pas l'oublier, on parle de détente, mais on a là affaire à une des pires dictatures de la planète. Que sait-on de la répression ?
Alors le rapporteur spécial pour les droits de l'homme en Corée du Nord de l'Union des Nations Unies, disait justement hier matin qu'il ne fallait pas oublier cette situation des droits de l'homme. Il y a encore des dizaines de milliers de personnes qui sont emprisonnées dans des camps politique en Corée du Nord. La répression est totale, le contrôle des médias, le contrôle de la société est implacable en Corée du Nord. Ce qui est par contre une évolution, c'est le rôle institutionnel de certains corps au sein de l'État. Kim Jong-un, aujourd'hui, il est le dirigeant nord-coréen puisqu'il est le président de la Commission des Affaires d'État. C'est une institution qui a été créée en 2016, qu'il dirige et qui rassemble l'armée, le parti, l'organe le plus important, l'institution la plus importante en Corée du Nord, est le gouvernement. Et l'objectif de Kim Jong-un a été de mettre en avant davantage les technocrates du gouvernement que les bureaucrates du parti depuis son arrivée au pouvoir.
C'est difficile de savoir ce que pensent les Coréens du Nord en raison de cette dictature, mais vous avez le sentiment qu'ils sont totalement isolés du reste de la planète. Ils ne savent pas ce qui se passe en Europe, ailleurs, en Asie. Et vous ne pensez pas que finalement, tout doucement, ils pourraient se dire on en a assez de subir cette dictature de Kim Jong-un avec ce culte de la personnalité ?
Alors, malgré l'accès et le difficile accès à l'information en Corée du Nord, les Nord-Coréens savent en partie ce qui se passe dans le reste du monde. Premièrement, vous avez à la télé nord-coréenne des journaux étrangers qui sont expurgés de tout ce qui pourrait être sensible, mais qui sont présentés, je me rappelle notamment lorsque j'étais à Pyongyang, du journal télévisé d'Al Jazeera. Mais vous avez également, au sein de la population nord-coréenne, un accès, de façon illégale et réprimée par le système policier et militaire nord-coréen, accès à des informations, à des sources d'informations étrangères, notamment les séries, la musique sud-coréenne. Et on l'a même vu ces derniers jours, lorsque une troupe de musiciens sud-coréens s'est rendue à Pyongyang, l'élite nord-coréenne, en réalité, raffole de l'accès à cette culture coréenne, en réalité, la culture sud-coréenne.
Mais les Coréens du Nord, par exemple, ils connaissent la vie de Séoul, cette ville qui est tellement vivante, ils n'ont pas envie de cela ?
Alors, ils en ont bien évidemment, j'imagine, envie. La question est celle du contrôle de ces populations et du nationalisme exacerbé qui s'est développé en Corée du Nord, sous le contrôle évidemment du régime. Le but du régime, c'est de présenter les Sud-Coréens comme des gens développés, mais qui sont inféodés aux États-Unis. À l'inverse, les Nord-Coréens seraient, selon la propagande nord-coréenne, peut-être moins riches, moins développés, mais au moins auraient une vertu morale qui est celle de l'indépendance. Il faut rappeler que l'idéologie au cœur même du régime nord-coréen est l'idéologie du juche, de l'autonomie, de l'indépendance, et que cette idéologie a été construite en opposition aux décennies d'occupation japonaise, lorsque la Corée était une colonie de l'Empire nippon entre 1910 et 1945, mais aussi suite au siècle d'influence de la Chine, de l'Empire chinois sur le Royaume de Corée.
Alors en Corée du Sud, comment la population voit-elle ce rapprochement avec le Nord ?
Alors, selon les enquêtes d'opinion, la population sud-coréenne soutient massivement l'organisation de ce troisième sommet intercoréen. Par contre, côté sud-coréen, il n'y a pas la volonté de faire des concessions importantes à la Corée du Nord et aux Nord-Coréens. Et c'est une différence majeure par rapport à 2000 et surtout 2007, où la Corée du Sud était prête à d'importantes concessions vis-à-vis de son voisin.
Est-ce qu'on peut imaginer, à l'issue de ce sommet, des trafics plus simples de population entre le Nord et le Sud ?
De population, en termes généraux, peut-être pas, mais des échanges sur le plan des personnes à personnes, sur le plan humanitaire, sur le plan culturel, ça c'est fort possible, tout simplement puisque cela ne violerait pas les sanctions de l'ONU et permettrait aux deux Corées d'institutionnaliser cette reprise du dialogue et cette reprise de la coopération qui se fera petit à petit, pas à pas dans les années qui viennent.
Rendez-vous donc après-demain pour ce sommet entre les dirigeants de Corée du Sud et de Corée du Nord. Antoine Bondaz, merci beaucoup.
Merci à vous.
Chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique et enseignant à Sciences Po Paris. Merci.
France Inter. Pierre Veille. Un jour dans le monde.
À suivre dans Un jour dans le monde, sous les radars de l'actualité, Virginie Pironon, et puis escale reportage au Bénin, le combat contre le paludisme, là-bas à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Mercredi, c'est le cinéma dans le monde avec Eva Bétan. Bonsoir Eva.
Bonsoir.
On va parler d'un film israélien.
Foxtrot de Samuel Maoz, un film sur la guerre plus que de guerre, je dirais, humour noir, allégorie, absurde. Et il questionne les fondements de la société israélienne et il va loin dans ce questionnement.
18h55, la chronique internationale d'Anthony Bélanger. Bonsoir Anthony.
Bonsoir.
Hasard de l'actualité, Israël encore.
Mais oui.
Et les migrants africains.
Oui, Israël en a renoncé c'était hier à expulser 36 000 Africains. On verra pourquoi.
À tout à l'heure, Anthony. C'était en 1970, un énorme succès d'Eric Clapton, une composition d'un Américain, Gigi Kale, peu connu. À l'époque, il est fauché et grâce à Clapton, il va s'enrichir, reprendre goût à la musique et à son tour, il va enregistrer sa composition, After Midnight, en 1972. Voix chaude, traînante, jeu de guitare souple, félin et en ouverture, un piano serein. After Midnight.
After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna chug, lug, and shine. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is all about. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, gonna shake your tambourine. After midnight, it's gonna be peaches and cream. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is all about. After midnight, we're gonna let it all hang. Suspicion, give an exhibition, find out what it is on layback. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna let it all hang out.
After Midnight, Gigi Kale, il est parti en 2013. Discret, toujours discret, mais respecté.
Power Hit Radio.
Magic FM.
Terra de la Tula.
Desservi pour info.
60 minutes.
Voici Virginie Pironon, sous les radars de l'actualité. Virginie, d'abord direction l'Arménie.
L'Arménie où de nouvelles manifestations secouent à nouveau la capitale, Yerevan, aujourd'hui. Une contestation dans la rue qui dure désormais depuis une dizaine de jours, depuis que Serge Sarkissian, à la tête du pays depuis 10 ans en tant que président, a réussi à se faire nommer Premier ministre. La méthode est simple, il n'avait pas le droit de se présenter à un troisième mandat, pas grave, il a fait modifier la constitution, renforcer au passage les pouvoirs du Premier ministre avant de se faire nommer à ce poste. Face à la contestation qui a pris de l'ampleur, lundi, celui qui était jusque-là l'homme fort de l'Arménie a dû démissionner. Mais cela ne suffit pas pour ses opposants car c'est son parti qui est toujours au pouvoir et qu'il dispose de la majorité au Parlement. Les manifestants réclament donc de nouvelles élections. Son opposant, Nikol Pachinian, brièvement arrêté dimanche, réclame des autorités une passation de pouvoir pacifique. On l'écoute au micro de Radio Free Europe, Radio Liberty. Notre révolution du peuple, révolution de velours, non violente, elle ne peut pas s'arrêter. Nous ne sommes qu'à la moitié du chemin. Elle doit aller jusqu'au bout. Et j'espère que vous serez là pour aller jusqu'au bout. Ce matin, à nouveau sous les yeux de centaines de policiers et de forces anti-émeutes, des milliers de personnes se sont réunies au cœur d'Erevan. Dans cette ex-république caucasienne du RSS, 2 900 000 habitants, 3 personnes sur 10 vivent sous le seuil de pauvreté, selon les statistiques officielles. Pauvreté et corruption que le pouvoir en place jusque-là n'a pas su enrayer. Et la crise est loin d'être réglée pour l'instant. Pour la première fois ce matin, Pierre, le pouvoir évoque la tenue de législatives anticipées. Le vote pourrait avoir lieu le 2 mai.
Sous les radars de l'actualité, Virginie Pironon, cet incroyable scandale qui secoue le Royaume-Uni.
Le scandale Windrush. Windrush, du nom de ce premier navire de migrants, arrivé à Londres en 1948, dans un port de la Tamise, tout près de Londres. Des migrants, pour l'immense majorité, venus des Caraïbes, mais également de tout l'ancien empire colonial britannique, venus aider à reconstruire le pays après la guerre. Leur statut officiel, après l'indépendance des colonies, n'a jamais été formalisé. Et ces dernières années, avec l'intensification de la lutte contre l'immigration illégale, sous Theresa May, ministre de l'intérieur. D'un seul coup, les autorités ont commencé à leur demander des comptes. Et c'est comme ça que Paula Wilson, par exemple, arrivée de Jamaïque en 1968 à l'âge de 10 ans, s'est retrouvée illégale du jour au lendemain et placée une semaine en centre de rétention. Elle est interrogée par la BBC. C'est juste bouleversant de penser qu'une personne ordinaire comme moi peut traverser une épreuve comme celle-là. Je ne m'en suis pas encore totalement remise. C'est très difficile de mettre des mots sur cette épreuve. Mais je suis toujours là. Paula, qui a travaillé toute sa vie, payé ses impôts, élevé ses enfants au Royaume-Uni, a fini par obtenir des papiers prouvant qu'elle est en règle, mais elle devra les renouveler en 2024 et rien, dit-elle, ne pourra effacer l'épreuve qu'elle a dû endurer. Des témoignages comme celui-là, Pierre, il y en a des centaines. Alors face au tollé soulevé par ces menaces d'expulsion, la Première ministre, Theresa May, a été contrainte de s'excuser la semaine dernière. La génération Windrush a aidé à construire le pays que nous sommes aujourd'hui. Et je veux lever cette impression que mon gouvernement est en train d'agir avec trop de fermeté envers ses citoyens du Commonwealth, particulièrement envers ceux des Caraïbes qui ont construit leur vie ici. Et la Première ministre conclut en s'excusant, « Nous sommes profondément désolés pour toute l'anxiété que cela a pu causer ». Maigre compensation, Pierre. Hier, le gouvernement britannique a annoncé que tous ces immigrés d'origine caribéenne pourront obtenir la citoyenneté britannique gratuitement.
Pour finir, Virginie, un festival en Colombie.
Et c'est The Guardian qui nous le fait découvrir. Un festival de country colombienne qui trouve son origine chez les fermiers du pays qui ont mélangé rythmes espagnols et d'Afrique de l'Ouest. Ça s'appelle le Vallenato, littéralement né dans la vallée. 5 jours au cours desquels, au nord de la Colombie, les habitants de Valledupar et ses environs rivalisent de virtuosité à l'accordéon, au bongo, les percussions et à la guacharaca, sorte de rap à fromage. Le Vallenato a été jugé encore récemment ringard, Pierre. Maintenant, c'est hyper tendance, même les chanteurs pop d'Amérique latine s'y sont mis.
Virginie Pironon, sous les radars de l'actualité. Merci.
France Inter, le 18-20.
Et voici l'escale reportage. Ce 25 avril, c'est la journée mondiale de lutte contre le paludisme, maladie qui tue environ 1 million de personnes par an dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé, surtout des enfants. Au Bénin, c'est la première cause de mortalité chez les moins de 5 ans. Alors grâce à la sensibilisation, à la distribution de moustiquaires imprégnés, la population prend conscience du danger. Dans les zones rurales, les relais communautaires jouent un grand rôle. Ce sont des villageois formés pour soigner le paludisme simple, c'est-à-dire lorsqu'il se déclare avant qu'il ne se développe et devienne grave. Delphine Bousquet, vous êtes la correspondante de RFI au Bénin. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous vous êtes rendue à Rwangon, à 2 heures de route de Cotonou, la capitale économique du Bénin, dans ce village de 1500 habitants en pleine brousse. Il n'y a pas de centre de santé.
Son enfant, attaché au dos par un pagne, Gisèle, jeune maman de 22 ans, arrive chez Antoinette Akpadji, le relais communautaire. Sa petite fille Véronique, 17 mois, a de la fièvre depuis la veille. Antoinette reçoit dans sa petite chambre cette quadragénaire menue et énergique portant bomba, une tenue traditionnelle avec un haut et une jupe nouée à la taille du même tissu très coloré. Sur une table, une grosse cantine en métal contient les tests rapides du paludisme et les médicaments. Mains lavées, gants enfilés, elle pique le doigt de l'enfant avec une aiguille sortie d'un sachet, recueille une goutte de sang qu'elle dépose dans une boîte. En quelques minutes, le résultat apparaît.
Ça a donné positif parce que ça a donné deux traits. Le petit fille a du paludisme. Je vais prendre les comprimés et expliquer à la mère comment elle va utiliser ça à la maison. Mais devant moi ici maintenant, elle va prendre première dose devant moi ici. Arrivée à la maison maintenant, si l'enfant commence à faire de convulsions, elle va me ramener. Si elle a pris le sein, si ça ne reste pas dans son ventre, elle vomit tout ça. Si l'enfant a eu anémie, le sang est fini. Elle va ramener l'enfant et je vais la référer directement au centre de santé. Je ne peux pas la garder ici.
Gisèle rentre chez elle avec le traitement, il est gratuit, et quelques comprimés de paracétamol qu'elle a acheté. C'est la deuxième fois que sa fille a le palu. Le palu, c'est comme ça qu'on dit ici. Dans la chambre, une moustiquaire imprégnée de répulsif est accrochée au-dessus du matelas. Toute la famille dort là. Antoinette nous la montre.
C'est moi qui ai venu installer avec elle. La moustiquaire.
On dort ce moustiquaire la nuit. Je mets aussi ma fille dessous la journée. Mais le soir, les enfants jouent dehors et ils sont piqués. Je sais que le paludisme tue. Moi, dès que ma petite a de la fièvre, je vais voir Antoinette. Elle est vite prise en charge. C'est capital qu'elle soit là. On n'a pas besoin de payer le déplacement jusqu'au centre de santé juste pour savoir si c'est elle.
Antoinette reviendra dans 3 jours à la fin du traitement, vérifier si tout va bien. En une seule matinée, elle a vu 4 enfants et un cas de malaria. C'est le début de la saison des pluies, il y a plus de moustiques et donc plus de risques. Maman de 6 enfants, Antoinette a été choisie par les sages du village, formée et équipée par l'UNICEF, qui la rémunère l'équivalent de 40 euros par mois. Elle constate qu'il y a beaucoup moins de décès.
Avant, si les enfants ont eu la fièvre, avant d'arriver au centre de santé, les enfants vont mourir sur la voie. Il n'y a plus aucune main ici, dans Rwangon, ici maintenant. Si l'enfant a eu de fièvre dans 3 jours, dans 4 jours, elles vont traiter avec de tisane d'abord. Ou bien elles vont amener ça chez les guérisseurs avant de me ramener ça. Il n'y a plus. La mortalité des enfants de 0 à 59 mois a diminué. Et je suis très contente de ça.
La zone sanitaire dont dépend le village compte 400 000 habitants. La mortalité à l'hôpital, celle qui peut être comptabilisée, est passée de 10% à moins d'1% en 5 ans. C'est normal puisque les cas graves ont diminué et c'est largement dû au relais communautaire, d'après le docteur Blaise Guézo, le médecin coordonnateur qui est venu sur le terrain.
Il y a d'abord la sensibilisation parce que à chaque relais communautaire, nous avons attribué un certain nombre de ménages, environ 30 à 50 ménages. Et ces relais, de façon mensuelle, vont dans ces ménages pour leur demander de dormir sous moustiquaire, de faire l'assainissement de l'environnement, tout ceci pour éviter la survenue de la maladie. Deuxième chose, dès que le cas survient, le relais a été capacité pour prendre en charge le plus rapidement possible les enfants. Et puis, le relais sert de couloir de transmission entre donc la communauté et le centre de santé. Si éventuellement il y avait des cas graves, ils essaient donc de référer le plus tôt possible pour que l'enfant la soit pris en charge rapidement au niveau du centre de santé.
Le centre de santé se trouve à Pozon, à 5 km de là. C'est un bâtiment rectangulaire de plein pied auquel on accède par une piste de terre rouge. C'est là qu'Antoinette envoie les enfants si le test n'a rien décelé en cas de complication ou si la fièvre persiste. Colette Béanzin, sage-femme, feuillette le registre de soins.
Un, deux, trois, quatre cas de paludisme. Donc depuis 8 heures, sur 5 enfants qu'on a reçus, il y a 4 cas de paludisme. Et nous sommes à 11 heures. Les gens viennent surtout pour le paludisme.
Est-ce que les gens viennent vite?
Il y a certains parents qui le font, mais il y a d'autres qui traînent. Les gens ne sont pas trop informés sur les conséquences du paludisme chez les enfants. La conséquence la plus grave, c'est le décès.
Ces agents de santé font même un constat étonnant, c'est en ville qu'il y a le plus de cas graves, parce que les parents traînent avant de faire le test à leur enfant ou parce qu'ils vont directement à la pharmacie et pratiquent l'automédication. Malgré les progrès, le paludisme reste un problème de santé publique.
Les ravages du paludisme au Bénin, reportage de Delphine Bousquet de RFI. On reste en Afrique avec Fatoumata Diawara. Son 9e album sortira fin mai. Un extrait, Femfo.
Jarabi ma fega nyalo nyala nderini nderini ngabedi sa ne kanu I want to know.
Musique du Mali de Fatoumata Diawara. Alors je précise que son nouvel album a pour titre Fenfo. Et là on vient d'entendre Nterini. Elle est en tournée actuellement. Samedi elle sera à Toulouse, le dimanche 3 juin à Lyon et le 1er juillet à Bruxelles.
France Inter. Pierre Veil. Un jour dans le monde.
Et le cinéma dans le monde, c'est maintenant avec Eva Bétan. Eva, la force du cinéma israélien n'est plus à prouver.
À vous non plus.
Voilà, des films souvent chocs pour dénoncer les failles de la société israélienne. Nouvel épisode avec ce film qui sort, Foxtrot, de Samuel Maoz.
Alors, je voudrais d'abord vous rappeler qui est Samuel Maoz. Ce monsieur était tranquille chez lui, puis un jour, en 2009,
Il n'avait jamais fait de cinéma, il décide de faire un film, ça s'appelle « Lebanon » et il raconte la guerre du Liban telle qu'il l'avait faite à 19 ans dans les chars. Mais il était dans un char, donc tout le film est de l'intérieur d'un char. Lion d'or à Venise est chef-d'œuvre de l'absurde. C'est intéressant de savoir d'où il vient parce que s'il reprend la parole en quelque sorte aujourd'hui, c'est parce qu'il a à nouveau quelque chose à dire. C'est un film remarquable qui a eu 8 Ophirs, c'est l'équivalent des Césars israéliens dont le meilleur film, et l'ours d'argent, le lion d'argent à Venise. C'est un film en 3 parties et qui commence avec, on vient annoncer à des parents que leur enfant, soldat, a été tué, des militaires viennent annoncer. Ça veut dire quoi aujourd'hui encore de voir des enfants mourir et des enfants être amenés à tuer. Ce sont des gamins qui gardent un checkpoint désert. Il y a un côté allégorique, il y a un côté absurde, je l'ai dit, il y a un côté humour noir. Il va loin parce qu'il questionne la hantise de l'anéantissement de la société israélienne. Qu'il date de l'Holocauste, mais il n'y a pas que ça. Il n'a pas peur de toucher au tabou. C'est un film de fils et c'est un film de père, comme son personnage principal. Un père qui voit son fils mourir et un fils, il est le fils d'une survivante de l'Holocauste. C'est de sa génération qu'il parle.
Nos parents, nos professeurs avaient survécu à une des plus grandes tragédies des temps modernes. Ils portaient un numéro tatoué sur le bras. Ils avaient survécu à l'Holocauste. Qui étions-nous, nous, pour nous plaindre? Nous, les enfants gâtés, nés dans un pays ensoleillé, avec la mer bleue et des oranges à foison. Quel que soit le sujet, on ne pouvait pas se plaindre. Si je revenais de l'école avec un 7 en maths, ma mère disait « C'est pour cela que j'ai survécu à l'Holocauste, pour un 7 en maths ?» Oui, c'était ridicule. Mais quand je suis revenu de la guerre, avec mes deux mains, mes deux jambes, tous mes doigts et sans aucune marque sur mon corps, me plaindre de blessures intimes intérieures aurait été inacceptable.
Est-ce qu'on peut imaginer, on en est à la 3e génération après l'Holocauste, est-ce qu'on peut imaginer qu'à la 4e génération, cette peur de disparaître des Israéliens s'atténuera et qu'il y aura peut-être une paix.
Peut-être, mais il ne s'agit pas que de l'Holocauste. L'Holocauste, c'est le pic, le sommet, parce que j'ai envie de dire que, d'une certaine façon, ils ont lavé nos cerveaux. À l'école, un de mes professeurs avait écrit au tableau « C'est bien de mourir pour notre pays ». Je me souviens de l'aire de jeu de mon enfance. Il y avait les installations habituelles. Et il y avait aussi un canon. Un vieux canon datant de notre guerre de libération. On grimpait dessus. C'était une partie intégrante de notre aire de jeu. Je ne sais pas si je dois dire cela à la radio, mais ils nous ont complètement foutus en l'air.
Voilà, Samuel Maoz qui parle de son film Foxtrot. Alors ce film, Eva Bétan, a déplu,
c'est un euphémisme,
à la ministre de la Culture israélienne, une femme très conservatrice, qui a traité Samuel Maoz de traître, oui. Une insulte extrêmement courante en Israël.
Oui, mais elle l'a affirmé. Hein. Et alors, je ne vais pas déflorer le sujet. Il y a, disons, une bavure qui est couverte par l'armée, je n'irai pas plus loin. Mais je répète, c'est un film métaphorique, hein. Il n'y a pas très longtemps sur cette bavure. Le cinéma israélien est extrêmement critique. Souvenez-vous de Valsek Bachir, il parle rien moins que de Sabra et Shatila. Il y a la personnalité de la ministre, mais il y a le fait qu'il touche ce qu'il pense être un véritable tabou. Samuel Maoz.
I touch the IDF. I touch the Israeli Defense Force.
Si le crime décrit dans le film avait été commis par les forces de police israéliennes, personne n'aurait hurlé. Mais le fait que j'ai touché aux forces de défense israéliennes a fait de moi une sorte de traître pour une partie importante de la société israélienne. Le fait que j'ai payé un lourd tribut en faisant la première guerre du Liban ne comptait plus. Je suis un traître car ma ministre de la Culture a déclaré, sans avoir vu le film, qu'il diffamait les forces de défense israéliennes. La raison, c'est que notre armée n'est pas une armée de mercenaires. L'armée, c'est le peuple. L'armée est notre reflet.
Et oui, les garçons font 3 ans de service militaire, et ben, les filles 18 mois.
Et il y a surtout un immense talent de cinéaste.
Samuel Maoz, Foxtrot, choisi par Eva Bétan. Merci Eva.
Merci.
Le 18-20, Pierre Veil, sur France Inter.
Hasard de l'actualité, la chronique internationale d'Anthony Bélanger, encore Israël. Anthony, Israël a donc décidé d'abandonner l'expulsion d'Africains installés sur son sol.
Oui, c'était hier, à la surprise générale, alors que l'affaire s'annonçait plutôt mal. Elle devait bientôt être jugée devant la haute cour israélienne. Alors, de quoi s'agissait-il? Depuis plus d'un an, le gouvernement conservateur de Benjamin Netanyahou tente d'expulser 36 000 Africains, essentiellement des Soudanais et des Érythréens, entrés en Israël par l'Égypte et qui sont sans papier parfois depuis plus de 10 ans. Ils sont soutenus par des associations de défense de réfugiés et des migrants, comme en France, en Allemagne ou en Italie. Et que dit ces associations? Qu'il est impossible pour une démocratie véritable de renvoyer des réfugiés venus de pays notoirement dictatoriaux, je rappelle l'Érythrée ou le Soudan, sans au moins étudier leur demande d'asile. Or, Netanyahou explique depuis le début qu'il ne s'agit pas de réfugiés, mais bien de migrants économiques. L'affaire a suscité des manifestations dans tout le pays, des accusations de racisme, et a surtout divisé la majorité du Premier ministre. Son aile droite veut aller plus loin et l'accuse de temporiser. Son aile gauche de vendre l'âme d'Israël, qui est au fond un peuple de réfugiés.
Il y a aussi l'aspect juridique, Anthony.
Oui, effectivement, et c'est pour Netanyahou le plus ennuyeux. Les associations ont porté l'affaire devant la justice, et notamment donc la Haute Cour à Jérusalem, qui est garante de la constitutionnalité d'une décision, quelle qu'elle soit, de l'exécutif. Or, le problème avec la Haute Cour israélienne, c'est qu'une fois qu'elle a rendu un avis, eh bien, comme partout dans les pays de droit, il s'impose à tous les tribunaux. En clair, il fait jurisprudence. C'est un coup de dé, en fait. Si la Cour interdit les expulsions, eh bien, le gouvernement est coincé pour très 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 longtemps. C'est exactement pour cette raison que Benjamin Netanyahou a abandonné l'affaire en rase campagne. En clair, le gouvernement israélien ne veut surtout pas injurier l'avenir. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour ces réfugiés africains? Oui, à court terme, mais à moyen et à long terme, ça maintient leur situation dans le flou juridique. De plus, Benjamin Netanyahou a fait savoir, un, qu'il entendait rouvrir un gigantesque centre de rétention en plein désert du Negev, et deux, modifier sur ce point les prérogatives de la Haute Cour.
Il voulait aussi envoyer ces Africains dans des pays tiers.
Effectivement, avant cette décision surprise, il avait péniblement négocié avec deux pays africains, le Rwanda et l'Ouganda, selon la presse israélienne, l'accueil des migrants éventuellement expulsés, et aussi avec quelques pays occidentaux. Alors évidemment, ces plans tombent de même, avec la décision d'arrêter les expulsions, mais en fait, il y a d'autres raisons qui expliquent cet abandon en rase campagne, des raisons de priorité en termes de sécurité nationale et d'image internationale. Début avril, la violence de la répression israélienne des manifestations gazaouis, une vingtaine de morts par balle, souvenez-vous, et la réaction internationale, notamment celle très écoutée là-bas de l'actrice américaine Nathalie Portman, a inquiété le gouvernement israélien. De plus, on sent bien que quelque chose est en train de se tramer entre l'Iran, la Syrie et le nord d'Israël. Alors pour l'instant, des escarmouches, des frappes israéliennes sur une base aérienne en Syrie, une guerre de communiqués, mais le ton monte.
Alors si je vous décrypte, Anthony, vous voulez dire qu'il faut savoir choisir ses batailles?
Exactement. Expulser 36 000 Africains, ou ne serait-ce que les arrêter et les transférer dans des centres de rétention, ça mobilise énormément de ressources. Or Israël a probablement besoin de maintenir ses ressources sécuritaires alertes pour d'autres objectifs, avec au fond, c'est au fond le plus inquiétant dans cette affaire. Ces 36 000 Africains ne posent pas de problème de sécurité. Ils nourrissent une économie au noir de travailleurs peu qualifiés dont Israël a malgré tout besoin, surtout en cas de mobilisation générale.
Anthony Bélanger, comme tous les derniers jeudis de chaque mois, on vous retrouve demain à 19h à l'Institut du Monde Arabe pour vos rendez-vous de l'actualité. Quel thème?
Eh bien l'Égypte, quelles évolutions depuis le printemps arabe. Il y aura Stéphane Lacroix, Leslie Picmal, Christophe de Roquefeuille de l'AFP, ce sera passionnant.
Merci Anthony.